Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous, que ce soit en ligne ou en présentiel. Nous vous remercions de votre présence à cette soirée débat. Nous vous en remercions d'autant plus que cette soirée, ainsi que la journée de demain, est le fruit de 7 années de travail, de rencontres et d'échanges d'un séminaire de recherche de la chaire de théologie œcuménique des facultés Loyola Paris. Ce séminaire de recherche, durant 7 ans, a rassemblé quelques théologiens, théologiennes, appartenant à diverses églises.
Bon, alors, audio.
Alors, nous allons couper le son de ceux qui sont en ligne. Est-ce que vous m'entendez ?
On va parler au meilleur.
Alors, on va s'arrêter pour quelques petits ajustements techniques. Pas peine que je reprenne le début. Vous avez entendu le début quand même, non ? Bon, en tout cas, c'était bienvenu. Ça va mieux ? Non, ça marche pas. 1, 2, 1, 2. Là, c'est bon. Bon, d'accord. Donc, bienvenue, ça vaut quand même la peine de l'entendre, ce mot. Et puis surtout, merci. Merci, pour quelle raison nous vous remercions d'être là ? Eh bien, parce que cette soirée, ainsi que la journée de demain, c'est le fruit de 7 années de travail, de rencontres et d'échanges, d'un séminaire de recherche de la chaire de théologie œcuménique des facultés Loyola Paris. Durant ces 7 années, ce séminaire a rassemblé quelques théologiennes et théologiens appartenant à diverses églises et de plusieurs institutions universitaires. Bien sûr, les facultés Loyola, l'Institut catholique de Paris, l'Institut protestant de théologie, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, la faculté libre de théologie évangélique, mais aussi l'association pentecôtiste charismatique de recherche européenne. Il y a aussi l'Université de Fribourg qui est représentée par une doctorante, etc. Donc une diversité de voix pendant 7 ans, catholiques, protestants, orthodoxes, mais aussi, et j'aimerais le souligner, en particulier pour la journée de demain, une diversité à l'intérieur même du protestantisme, que l'on connaît, on a l'habitude de le connaître, surtout dans les débats théologiques, plutôt luthéro-réformés, anglicans. Eh bien là, nous avons, depuis le début, laissé place aussi aux voix évangéliques libres, pentecôtistes ou ménonites. Nous avons choisi, dans ce séminaire, de travailler le champ de l'anthropologie théologique chrétienne. Pourquoi un tel champ théologique ? Tout simplement, et ça n'était pas si simple que ça, nous avons choisi un champ théologique à propos duquel il n'y a pas de dialogue œcuménique explicite sur ce thème. Donc pas de dialogue œcuménique spécifique. Or, en fait, ce sujet de l'anthropologie en général, est souvent le lieu de tensions œcuméniques implicites. Nous avons, durant ces 7 années, travaillé en 2 temps. Dans un premier temps, nous avons entendu la voix de diverses traditions en matière d'anthropologie. Quelles sont les représentations de l'être humain qui sous-tendent des différentes traditions chrétiennes et les dialogues œcuméniques ? Nous avons cherché à comprendre pourquoi, alors que nous affirmons ensemble que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, nous n'en déduisons pas les mêmes conséquences. Donc la question qui est devenue la nôtre, c'est la démarche œcuménique en anthropologie chrétienne ne nous obligerait-elle pas à penser de façon renouvelée ce champ de la théologie, à réentendre et redéfinir des notions bien classiques comme le péché, le mal, malheur, le salut. Ça, c'était le premier temps de travail où nous sommes écoutés les uns les autres, nous avons écouté les représentants de pas mal d'églises et de traditions. Et dans un second temps, nous avons déterminé ensemble un thème d'étude plus spécifique autour du triptyque identité, relation, liberté. Identité, relation, liberté. Et cette réflexion autour de ce triptyque nous a conduit à vous proposer cette soirée débat et la journée de demain, qui ensemble déploieront le thème suivant, Les identités en question, enjeu pour l'existence humaine et la vie des églises. Alors, comment se déroulera notre soirée? Nous allons entendre, je le présenterai tout à l'heure, Marc Boss. Et puis ensuite, nous entendrons deux répondantes qui feront écho, qui diront comment elles reçoivent l'intervention du professeur Marc Boss. Elles pourront aussi ouvrir ce champ-là. Donc c'est Michel Fédoux qui présentera davantage cette partie. Donc nous ouvrons, et puis ensuite il y aura un débat avec vous. Donc je le dis d'emblée, comme ça vous pouvez aussi déjà noter vos questions ou vos réactions qui nourriront le débat qui terminera la soirée. Alors nous ouvrons ce colloque par une soirée débat qui propose une réflexion qui est en fait à la croisée de la philosophie morale et politique et de la théologie œcuménique. Alors, lorsqu'on dit croisée de la philosophie morale et politique et de la théologie œcuménique et de l'éthique, alors immédiatement un nom peut s'imposer, c'est celui de Marc Boss. Pourquoi? Eh bien, parce que Marc Boss, ses champs d'enseignement et de recherche sont précisément l'éthique théologique, la philosophie morale et politique, mais aussi la philosophie du droit, l'épistémologie, l'histoire de la philosophie. Et en ce qui concerne l'œcuménisme, Marc Boss est aussi membre, depuis 2 ans je crois, de la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises. Donc il est la personne qui pouvait justement s'exprimer le mieux possible et nous rendre compte de ce que nous espérions sur ce croisement philosophie morale et politique, théologie œcuménique. Marc Boss a aussi été, ou est pasteur, il était ordonné pasteur dans l'église réformée à l'époque, aujourd'hui EPUDF, et il enseigne à l'Institut protestant de théologie de Paris. J'ai parlé de ses champs d'enseignement. Et alors, il y a de nombreuses publications. J'en relève une. Tu m'en laisses une alors, Marc. D'accord. Au moins à cause du titre. Je le trouve très beau. Au commencement, la liberté. La religion de Kant réinventée par Fichte, Schelling et Tillich. Chez Labor et Fides. Voilà, je cite au moins celui-là. Et donc, nous allons commencer ce colloque par cette soirée débat avec un titre qui est un tout petit peu différent de celui qui a été annoncé et que vous avez vu sur vos programmes. Mais vous verrez que vous allez retrouver, si vous attendez bien la fin de l'intervention, vous allez trouver ce que vous y attendiez, je pense, ou ce que vous avez lu. Mais aujourd'hui, en tout cas, à 7h, le titre est celui-ci. « Pour une éthique œcuménique de l'identité, une discussion critique du programme ecclésiologique de Georges Lindbeck. » Et si vous ne connaissez pas Georges Lindbeck, bien justement, la soirée permettra de faire connaissance avec cet auteur et ce qu'il propose. Donc Marc, merci d'être parmi nous. Nous avons eu souvent l'occasion de travailler ensemble entre Loyola, les facultés Loyola et l'IPT. Nous sommes très heureux de cette collaboration et t'en remercions aussi parce que tu es une des chevilles ouvrières aussi de cela, en particulier pour le séminaire de recherche sur l'écologie. Donc je te laisse la parole avec joie maintenant.
Merci beaucoup Anne-Cathy et merci Michel aussi pour cette invitation. Et merci d'avance, je prends mes risques, à Brigitte et à Julia d'avoir pris la peine de lire mon texte, voilà, et de vous donner leurs commentaires, leurs réactions tout à l'heure, pour nous aider à entrer dans la discussion. Alors, on y va. Je ne pense pas vous apprendre, chers amis, que nous commémorerons le 8 décembre prochain le 60e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. Selon toute vraisemblance, les groupes catholiques de la mouvance dite identitaire n'auront guère matière à célébrer ce jour-là. Comme l'a récemment rappelé Olivier Roy, ces groupes interprètent la crise identitaire qu'ils perçoivent dans l'Église comme le résultat de l'aggiornamento mené par le Concile Vatican II, qui aurait été, selon les plus modérés, une trahison de la tradition, et selon les plus radicaux, une manœuvre de Satan. Le politologue observe que ces groupes deviennent identitaires en cessant d'être universalistes, qu'ils se réclament de la nation, de l'héritage chrétien de l'Europe, mais que dans la plupart des pays d'Europe, ils peinent à relayer leurs idées au niveau politique, même auprès des partis illibéraux, qui semblent pourtant leurs alliés les plus naturels. Il y a chez eux, je cite, un mouvement de repli sur soi, de communautarisme, un discours qui dit « parce que la société nous rejette, nous devons vivre entre nous, dans des communautés séparées, et soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. » Entre besoin de réassurance communautaire et désir de reconquête civilisationnelle, entre sectarisme ecclésial et programme d'hégémonie politique, le catholicisme identitaire semble connaître les mêmes oscillations que les factions politiques du fondamentalisme évangélique. La tension entre repli communautaire et nostalgie de la chrétienté n'est toutefois pas propre à ces mouvances du christianisme contemporain qu'un usage récent tend à regrouper sous le terme d'identitarisme. Mais on les retrouve sous des variantes plus résolument iréniques, à l'intérieur même du mouvement écuménique. Pour illustrer mon propos, je présenterai les réflexions contrastées menées à ce sujet sur plus de 4 décennies par un auteur qui s'est illustré à la fois comme un théoricien et comme un acteur de premier plan du mouvement écuménique dans la seconde moitié du XXe siècle, le théologien luthérien George Lindbeck. Après une brève évocation de l'évolution que son programme ecclésiologique subit entre les années 1960 et 1990, j'examinerai successivement les notions de sectarisme écuménique et de mission culturelle avant de clore sur quelques remarques critiques pour essayer de penser avec et contre Lindbeck une éthique écuménique de l'identité. Le programme ecclésiologique de Lindbeck ou la question identitaire au prisme du sectarisme écuménique et de la mission culturelle. George Lindbeck est surtout connu dans le monde francophone comme l'auteur d'un ouvrage de 1984 traduit en français sous le titre « La nature des doctrines, religion et théologie à l'âge du post-libéralisme ». Décisive par son retentissement dans le champ de l'épistémologie des croyances et de la théologie des religions, cette publication ne représente cependant qu'une étape dans la longue carrière de philosophe médiéviste et de théologien protestant que Lindbeck a mené à l'université Yale entre 1952 et 1993, après avoir été l'élève d'Étienne Gilson au Centre pontifical d'études médiévales de Toronto et de Paul Vigneault à l'École pratique des hautes études à Paris, ce qui n'est pas très commun pour un protestant américain, vous en conviendrez, surtout s'il a passé les 17 premières années de sa vie en Chine et en Corée avec ses parents missionnaires. Comme il aimait à le souligner lui-même, cette formation de médiéviste n'est pas étrangère à ce qu'on pourrait appeler le tropisme écuménique de son travail théologique et de ses engagements ecclésiaux, des engagements notamment marqués par sa participation comme observateur luthérien au Concile Vatican II, puis par sa coprésidence de la commission mixte évangélique luthérienne et catholique romaine. Après avoir suivi avec enthousiasme les travaux du Concile depuis la position privilégiée d'un observateur invité sur place, Lindbeck s'est plus d'une fois interrogé sur le sens et les implications ecclésiales de la notion d'aggiornamento. Sa réflexion se veut une contribution écuménique aux intenses discussions post-conciliaires menées à ce sujet dans l'Église catholique. En effet, l'enjeu ecclésiologique de ces discussions concerne, à ses yeux, toutes les confessions chrétiennes et pas seulement le catholicisme. Écuménique dans sa visée, la thèse défendue par Lindbeck procède d'une observation empruntée à la sociologie de la connaissance. Dans les sociétés démocratiques en phase de sécularisation avancée, les églises sont devenues des minorités de convictions parmi d'autres. À ce titre, leur pertinence sociale répond aux mêmes conditions que leur simple survie en tant que communauté minoritaire, pouvant se prévaloir d'une identité qui leur soit propre et dont elles puissent revendiquer la singularité pour la défendre et la promouvoir. En d'autres termes, la pertinence sociale des églises ne dépend pas d'une mise à jour de leur langage et de leur forme de vie, qui serait le gage de leur capacité d'adaptation aux attentes présumées des sociétés qui les abritent, mais elle dépend au contraire de leur aptitude à entretenir et développer les qualités singulières de leur langage et de leur forme de vie spécifique. Appliquée à toutes les minorités de conviction, cette thèse dite du sectarisme sociologique trouve son explication dans l'ambivalence du phénomène de la sécularisation tel que Lindbeck le perçoit. En tant que processus par lequel les différents domaines de la vie d'une société s'affranchissent de la tutelle d'une autorité religieuse de référence, la sécularisation suscite en effet, de la part de Lindbeck, un jugement mitigé. Dans la veine du théologien baptiste Harvey Cox, Lindbeck loue les vertus émancipatrices de la cité séculière au nom d'une foi chrétienne bien comprise. Mais il craint néanmoins les effets délétères de la sécularisation sur les systèmes de légitimation indispensables au fonctionnement de toute société. Aussi cherche-t-il à soustraire à ces effets indésirables les communautés de conviction dont les pratiques discursives ont vocation à concevoir et transmettre ces systèmes de légitimation. D'où la thèse paradoxale en apparence que ces communautés ne servent jamais aussi bien la cité séculière que lorsqu'elles instaurent à son égard une coupure, une distance, un retrait suffisant pour ne pas édulcorer à son contact les idiomes et les imaginaires denses de leur conception du monde et du bien. Élaborée dès la fin des années 1960, cette thèse subit une évolution notable à partir de la fin des années 1980. Comment qualifier cette évolution ? En 1968, dans un essai intitulé « Ecumenism and the Future of Belief », Lindbeck voyait l'élimination des derniers reliquats culturels de la chrétienté comme une chance pour les communautés chrétiennes. Il pensait alors qu'en forçant les églises à renouer avec la condition minoritaire du christianisme pré-constantinien, la sécularisation leur offrait une heureuse occasion de repenser leur raison d'être et leur mission dans un cadre ecclésiologique adapté à cette condition. Deux décennies plus tard, dans un essai de 1989 intitulé « The Church's Mission to a Postmodern World », le jugement de Lindbeck sur la sécularisation se fait hésitant. Il m'est arrivé dans le passé, dit-il, de saluer la fin de la chrétienté comme un événement bienvenu. Je nourris aujourd'hui des doutes à ce sujet. Dans les années qui suivent, Lindbeck précise lui-même les raisons de ses doutes. Les bouleversements géopolitiques du tournant des années 1990 l'ont amené, dit-il, à porter un jugement circonspect, sinon sur la sécularisation en tant que telle, du moins sur ses interprétations dites sécularistes, qui voient dans l'avènement d'une société sans religion le sens et le but de l'histoire humaine. À rebours du climat de confiance inconditionnelle en l'avenir du capitalisme libéral et démocratique, que suscite alors la chute des régimes communistes du bloc soviétique, Lindbeck invite à distinguer le libéralisme politiquement pragmatique, dont les agencements institutionnels assurent le bon ordre et la viabilité des sociétés pluralistes, et le libéralisme promu dans une logique consumériste comme idéologie fondée sur les valeurs conjointes de l'individualisme et du sécularisme. Si les démocraties dites libérales cèdent à la tentation de se définir idéologiquement dans ces termes, conjecture Lindbeck, elles ne seront guère plus viables à long terme que les démocraties dites populaires. Dans sa version individualiste comme dans sa version collectiviste, le sécularisme lui apparaît en effet comme un ferment de dissolution de l'identité de ces minorités de conviction, par la médiation desquelles des traditions de vertus personnelles, de bien commun et de sens ultime sont transmis à de nouvelles générations. Trois... je sais plus où j'en suis, c'est 3, c'est, hein, c'est ça. Ecumenism and the Future, merci, heureusement que t'es là, Brigitte. Ecumenism and the Future of Belief, 1968, ou le paradoxe du sectarisme écuménique. Comme l'a rappelé Hans Frey, l'ami et le collègue de Lindbeck à Yale, Ecumenism and the Future of Belief constitue un texte clé pour comprendre un thème récurrent de l'ecclésiologie de Lindbeck. On y trouve en effet la première élaboration systématique de l'idée qu'il existe un bon usage théologique du sectarisme sociologique et que ce dernier permet de corriger les effets secondaires indésirables de la sécularisation. Nous l'avons noté d'emblée, la sécularisation présente pour Lindbeck une face positive et une face négative. Sur la face positive, une éthique attentive aux ressources critiques des traditions prophétiques de la Bible peut interpréter en bonne part certains traits constitutifs d'une société sécularisée. Je cite, « Son caractère anonyme, par exemple, rend possible l'indépendance individuelle et favorise des rapports interpersonnels sur la base des relations je-tu plutôt que sur la base des liens du sang, de la proximité et de la propriété. » Lindbeck admet en outre que le pragmatisme rationnel qui définit les orientations de cette cité séculière est un outil indispensable au bon fonctionnement d'une civilisation scientifique et technique. Mais il s'inquiète des limites d'une conception de la vie sociale qui se voudrait strictement réduite à cette approche scientifique et technique. Certes, le pragmatisme rationnel résout des problèmes pratiques là où la religion et l'idéologie échouent, mais il ne peut pas se substituer à elle pour décider des buts qu'une société devrait poursuivre ou des valeurs ultimes qu'elle devrait défendre. Autrement dit, le pragmatisme rationnel qui définit les procédures délibératives et décisionnelles de la cité séculière ne légitime pas l'entreprise humaine. Il ne le peut ni ne le doit. C'est là sa grandeur et sa limite. La face négative de la sécularisation tient précisément à cette limite, car non seulement la société qu'elle engendre est structurellement impuissante à produire un système de légitimation à partir de son propre fond, mais elle fragilise aussi les systèmes hérités des diverses traditions idéologiques et religieuses qu'elle abrite. La thèse centrale de Lindbeck est que les communautés qui se réclament de ces traditions sont potentiellement des minorités créatives, c'est-à-dire des groupes dont les systèmes de légitimation peuvent être bénéfiques pour l'ensemble de la société et pas seulement pour eux-mêmes. Inspiré des travaux de sociologues de la connaissance tels que Peter Berger et Thomas Luckman, cette thèse forme le point de départ de la théorie de la sécularisation exposée dans Ecumenism and the Future of Belief. Lindbeck observe en effet que les systèmes de légitimation permettent aux membres d'un groupe social d'expliquer et de justifier leur conduite, leurs institutions et leur existence même. Lorsqu'il se réfère à ces systèmes, ils en appellent à ce qu'ils tiennent pour réel et réellement bon à leur représentation de l'être et du devoir-être, du réel et de l'idéal. Dans le cas des injonctions morales, par exemple, ces systèmes de légitimation présentent une grande diversité de contenus, mais quant à la forme, le fait même d'y recourir apparaît comme une constante. Je cite, « Tout groupe social éprouve la nécessité de tenir en bride l'égoïsme individuel » en recommandant que l'on se préoccupe du prochain, même si la nature de cette préoccupation et la définition du prochain varient. Chaque groupe en appelle ainsi à son propre système de légitimation. Mais chaque système se réfère à ce qu'il tient pour le bien ou la réalité finale en l'humain ou en dehors de celui-ci. Alors qu'en est-il dans les sociétés sécularisées? Ces dernières ont ceci de particulier qu'elles font coexister au sein d'un espace politique unifié les systèmes de légitimation de divers groupes idéologiques et religieux. Or, le simple fait de cette coexistence affecte l'autorité voir la crédibilité de ces systèmes qui se retrouvent minés et affaiblis d'être placés dans une relation compétitive. Ce pluralisme de fait des sociétés sécularisées rend par ailleurs nécessaire le bannissement des convictions idéologiques ou religieuses hors des limites de la vie publique. Dans une telle société, il n'est pas possible d'invoquer de manière spécifique et substantielle telle vision du monde ou telle conception du bien pour formuler des politiques gouvernementales, économiques ou pédagogiques, car cela reviendrait à s'exposer au risque d'un conflit des systèmes de légitimation. La question des principes suprêmes et des buts ultimes tend ainsi à perdre toute pertinence dans la structuration et la direction de la vie en société. Or, dans une société indifférente à la question du sens, des buts et des valeurs ultimes, les individus sont eux-mêmes dépourvus de repères pour s'orienter parmi les systèmes de légitimation concurrents. À moins qu'ils ne soient socialisés dans un groupe minoritaire, porteur de convictions spécifiques, ces individus ne disposent que d'une collection fortuite de croyances et de valeurs dépourvues de pouvoir d'intégration. D'un point de vue sociologique, Lindbeck estime raisonnable de prédire que dans les interstices de toute culture, serait-elle la plus sécularisée, il restera de l'espace pour des enclaves communautaires dissidentes et que ces enclaves minoritaires seront souvent religieuses étant donné qu'elles auront à définir leur dissidence par rapport à une culture majoritaire dont le trait le plus reconnaissable sera précisément celui de leur sécularisation. Lindbeck estime aussi plus que probable que certaines de ces enclaves seront chrétiennes, non seulement en raison du poids historique du christianisme dans certaines régions du monde, mais aussi en raison des ressources théologiques dont la tradition chrétienne dispose pour concevoir et mettre en œuvre ce qu'il appelle, de manière un peu provocante, une existence sectaire. L'importance accordée à la métaphore biblique du petit troupeau dans la prédication du christianisme primitif incite Lindbeck à dire que c'est l'existence majoritaire plutôt que la minoritaire qui constitue l'anomalie pour les chrétiens. Cette affirmation ne va guère de soi, car on ne voit pas quelle raison sociologique permettrait de considérer la situation minoritaire des églises pré-constantiniennes comme plus normative pour la définition du christianisme que leur situation majoritaire sous l'ère constantinienne. D'autant qu'il s'agit dans le premier cas d'une situation de facto dont on a quelques raisons de soupçonner qu'elle n'est devenue de iure qu'à la faveur d'une projection rétrospective de normes post-constantiniennes sur le christianisme des premiers siècles. Le discours de Lindbeck change donc ici de registre, passant de l'analyse sociologique à la proposition théologique. Et s'il fallait qualifier cette proposition d'un seul mot, l'adjectif écuménique s'imposerait assurément. Comme son titre l'indique, Ecumenism and the Future of Belief traite de façon directe et centrale d'écuménisme. L'ensemble de l'œuvre de Lindbeck peut d'ailleurs se lire comme une réflexion multidisciplinaire, théologique, épistémologique, sociologique, au service du dialogue écuménique. Or, comment peut-on plaider tout à la fois pour la cause écuménique et pour une existence sectaire des communautés ecclésiales ? Lindbeck n'ignore évidemment pas que son éloge du sectarisme peut prêter à confusion. Par son étymologie, le sectarisme sectionne. Il sépare un groupe d'un autre groupe. Mais quel groupe sépare-t-il au juste? C'est pour prévenir tout malentendu à ce sujet que Lindbeck forge l'expression de sectarisme écuménique. Cette dernière a certes des airs d'oxymore, mais Lindbeck prend soin de préciser que dans ce contexte, la notion de sectarisme ne doit pas s'entendre au sens courant d'un appel au schisme ou à la division intra-ecclésiale, mais qu'elle désigne un effort de démarcation entrepris par une communauté minoritaire pour ne pas dissoudre son identité dans la société majoritaire qui l'abrite. Quand il parle de l'Église au singulier, Lindbeck ne se réfère pas à une confession particulière, mais au réseau mondial des Églises, engagée dans la coopération et le dialogue œcuménique. Les églises qui forment cet ensemble sont par ailleurs appelées à ce qu'ils appellent une existence sectaire, faut s'y habituer, pour préserver l'intensité de leur vie communautaire. Dans ce modèle ecclésiologique, les églises sont donc à la fois œcuméniques, par les liens de dialogue et de coopération qui les rattachent les unes aux autres, et sectaires par le dessein qu'elles forment de cultiver, dans les interstices de la cité séculière, les ressources identitaires d'un imaginaire symbolique fait d'une certaine vision du monde, d'un mode de vie spécifique et d'une conception dense du bien. Autrement dit, le sectarisme œcuménique est bien un sectarisme sociologique, il en est la forme spécifiquement chrétienne. Dans « Ecumenism and the Future of Belief », Lindbeck voit le modèle ecclésiologique de ce sectarisme œcuménique dans l'Église primitive, qui a, dit-il, réussi à embrasser une remarquable variété de classes sociales, de races et d'intérêts dans une unité œcuménique et catholique. Ce modèle implique par ailleurs une préoccupation pour toute espèce de besoin et de souffrance humaine, motivée par une fidélité aux normes de justice sociale internes à la tradition chrétienne. Lindbeck illustre cette exigence de se tenir aux côtés des pauvres et des opprimés par la lutte des chrétiens engagés pour les droits civiques sous l'impulsion de la prédication de Martin Luther King. Comme l'indique cet exemple, le modèle du sectarisme œcuménique n'exige aucun retrait dans des ghettos sociologiques à la manière des Amish ou des Hasidim. Lindbeck assigne au contraire un rôle sociopolitique décisif aux minorités créatives que sont pour lui les églises et plus généralement les communautés de conviction qui cultivent leur vision du monde et leur mode d'existence dans les plis et replis des sociétés sécularisées. 4, si je ne me trompe pas, The Church Mission to a Postmodern World, donc 1989, ou l'ambiguïté de la mission culturelle. À partir de la fin des années 1980, Lindbeck s'interroge sur les limites de l'interprétation théologique de la sécularisation qu'il défendait 20 ans auparavant dans Ecumenism and the Future of Belief. Dans The Church Mission to a Postmodern World, il s'en explique ouvertement sous la forme d'une rétrospective autobiographique. S'il continue de penser que le déclin du christianisme culturel a produit des effets secondaires bénéfiques pour les églises elles-mêmes, il s'interroge désormais sur les conséquences de ce déclin pour des sociétés qu'il décrit comme ballottées entre deux périls opposés. Le chaos social qu'engendre l'irrésolution structurelle d'une anomie généralisée, oui, et la restauration autoritaire d'un ordre moral supposé perdu. Anomie généralisée, ordre moral supposé perdu. Aussi se demande-t-il s'il n'est pas de la responsabilité civique des églises de veiller à regagner quelque influence culturelle dans les sociétés sécularisées qui les abritent. Lindbeck n'ignore évidemment pas les ambiguïtés politiques et théologiques d'un programme de christianisation de la culture. Il ne cache guère son antipathie à l'égard des discours qui entretiennent aux États-Unis la nostalgie d'une Amérique chrétienne ou même du plaidoyer de Jean-Paul II pour une Europe chrétienne. Et il affirme avec la même détermination que 20 ans plus tôt qu'un christianisme qui se veut fidèle à ses origines ne peut prétendre à quelque mainmise sur la vie culturelle de toute une société. Je le cite, « Des ambitions de cette sorte sont interdites aux serviteurs d'un Messie crucifié ». Lindbeck voit dans la transgression de cet interdit le grand péché de l'Église à l'âge de la chrétienté. Il ne reproche pas à l'Église d'avoir acquis de l'influence, mais d'avoir cherché à promouvoir et maintenir cette influence par des moyens qu'il qualifie de mondains, oubliant ainsi que la chrétienté elle-même n'était que la conséquence inattendue du succès de l'Église primitive à s'occuper de sa propre vie communautaire et de son langage spécifique. C'est une citation. Tandis qu'il rejette la tentation d'une restauration politique de la chrétienté, Lindbeck n'exclut pas la possibilité pour les communautés chrétiennes d'exercer une influence culturelle de bon aloi sur les sociétés qui les hébergent. On remarquera que la description du mécanisme paradoxal de cette mission culturelle est entièrement calquée sur celle de la pertinence sociale du sectarisme écuménique. S'il estime impossible de programmer la mission culturelle, Lindbeck voit dans cette dernière un accident ou un effet secondaire de la fidélité que la communauté chrétienne manifeste dans son langage et dans sa vie. Dans la mesure où la fidélité aux valeurs intracommunautaires inclut le service aux autres, elle ne fonde pas seulement la mission sociale des églises, mais elle légitime aussi leur mission culturelle. La seconde formant pour Lindbeck un continuum avec la première. Je cite, « Dans certaines circonstances, la christianisation de la culture peut être le meilleur moyen pour les églises de vêtir les pauvres, de nourrir les affamés et de libérer les prisonniers. » En effet, l'indigence culturelle lui semble plus aliénante à certains égards que l'indigence physique. Il juge qu'il n'est guère aisé pour ses contemporains de survivre dans ce qui est pour eux un univers froid et vide, avec pour tout vêtement le jargon abstrait de la raison sociologique et psychologique. Et que s'il leur était possible de se draper dans des métaphores bibliques, ce sont ces termes, cela donnerait aux chrétiens une bonne raison de se réjouir et de penser que procurer ces métaphores et les maintenir en état de servir est partie intégrante de leur rôle de bon samaritain. La mission culturelle que Lindbeck assigne aux chrétiens consiste en définitive à maintenir vivace l'usage communautaire de leur idiome scripturaire pour lui permettre de rayonner, le cas échéant, au-delà des limites de leur communauté. Dans la mesure où la Bible a formé en profondeur le langage et l'imaginaire des sociétés occidentales, la vitalité et la créativité de ces sociétés dépendent, selon Lindbeck, de leur capacité à réapprendre la langue oubliée de l'écriture. Comme tous les idiomes scripturaires, la langue biblique projette des mondes dans lesquels des cultures entières peuvent vivre et ont vécu. À ce titre, sa fonction n'est pas celle d'un simple vestige patrimonial. Dans les sociétés dont elle a façonné la culture, elle offre un univers habitable. Les textes bibliques y procurent à la fois un vocabulaire dont les concepts et les images pénètrent la psyché collective et une syntaxe pour interpréter la réalité ambiante avec une flexibilité qui permet de nombreuses applications et par conséquent de nombreuses significations. C'est cette culture scripturaire que Lindbeck estime désormais menacée par les effets de la déchristianisation sur ce qu'il appelle l'imaginaire esthétique. Le dépérissement de ce christianisme culturel, ou plus exactement de la culture scripturaire, menace à ses yeux la vitalité et la créativité des sociétés sécularisées. Les conséquences intellectuelles et scientifiques de ce dépérissement lui semblent encore incertaines en 1989, mais ses conséquences politiques et morales lui paraissent d'ores et déjà tangibles dans la société américaine. L'exemple sur lequel il s'attarde est celui du débat sur l'apartheid dans les années 1980, mais il ne s'agit pour lui que d'un exemple parmi d'autres d'une polarisation du débat public observable depuis les années 1960 et à laquelle James Davison Hunter donnera le nom de « guerre culturelle » au pluriel dans son fameux ouvrage de 1991 intitulé « Culture Wars, The Struggle to Define America » Making Sense of the Battles Over the Family, Art, Education, Law and Politics. Parler de polarisation dans ce contexte, c'est qualifier la relation entre deux groupes dont les divergences de vues sur la famille, l'art, l'éducation, le droit et la politique sont exacerbées au point de former deux identités politiques irréconciliables, frappées d'une incompréhension mutuelle radicale, ou du moins supposée-t-elle. Cette incompréhension paraît d'autant plus grave à Lindbeck qu'elle sévit dans les églises aussi bien que dans la société. Je le cite, « Une véritable argumentation est impossible et ni les accords ni les désaccords ne tolèrent le moindre approfondissement. La manipulation de l'opinion publique devient de plus en plus forte et la faible voix de l'argumentation raisonnée, sur laquelle on pouvait autrefois compter pour jouer un rôle modérateur, même dans la guerre civile, n'a maintenant plus de langue commune dans laquelle s'exprimer. Si la possibilité d'une argumentation raisonnée conditionne la cohésion d'une société démocratique, cette possibilité dépend à son tour de l'existence d'un vocabulaire partagé de représentations et de concepts que les canons scripturaires ont vocation à fournir dans les civilisations dites de l'écrit, notamment lorsque ces dernières se réclament de traditions séculaires telles que le judaïsme ou le bouddhisme, le christianisme ou l'islam. La mémoire vive de ces références canoniques partagées constitue pour Lindbeck une ressource essentielle à l'intelligibilité même d'un dissensus moral. Plus cette mémoire s'estompe, et plus il devient difficile aux parties en présence de comprendre les arguments adverses, ne serait-ce que pour donner un sens à leur réfutation. Ces considérations dessinent en creux l'objectif politique de la mission culturelle que Lindbeck assigne aux communautés chrétiennes, contribuer à rétablir les conditions épistémiques d'une délibération collective sans contrainte ni manipulation, c'est-à-dire en définitive conforme aux exigences du débat public dans une démocratie libérale. J'en arrive au point 5, bref. Quand j'ai donné le titre, c'était brève, remarque conclusive. Une fois que c'est écrit, c'était un peu moins bref, mais heureusement qu'il me reste un quart d'heure pour ça. Donc, brève, remarque conclusive pour penser avec et contre Lindbeck une éthique écuménique de l'identité. Par un heureux hasard du calendrier, le 60e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II coïncide avec le 20e anniversaire de l'apparition d'un ouvrage d'Anthony Kwame Appiah, qui s'est imposé entre-temps comme une référence majeure et déjà presque un classique dans le débat philosophique international sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Son titre, Ethics of Identity. Le philosophe politique Thomas Nagel a résumé la thèse centrale de l'ouvrage en disant qu'il combine une forme de libéralisme qui aspire à une validité universelle avec une pleine reconnaissance et une sérieuse acceptation de l'importante diversité culturelle et morale qui caractérise notre monde. Dans une interview récemment accordée au journal Le Monde, le philosophe anglo-ghanéen décrit sa vision du cosmopolitisme comme la quête d'une solidarité universelle qui n'exige pas de l'autre qu'il soit comme moi pour que je me soucie de lui. Au contraire, dit-il, c'est un attachement à l'autre parce qu'il est différent. Dans Repenser l'identité, l'un des rares ouvrages d'Appiah traduit en français à ce jour, cette quête d'un cosmopolitisme enraciné se laisse reconnaître dans chacun des 5 cas d'école examinés du point de vue d'une éthique de l'identité. La croyance, la citoyenneté, la couleur de peau, la classe sociale et la culture. Notre étude de la trajectoire théologique de Lindbeck nous a conduit à mettre les interactions entre la croyance et la culture au premier plan de nos considérations, en laissant à l'arrière-plan d'autres lieux de cristallisation de la question identitaire. La citoyenneté, la couleur de peau, la classe sociale, mais aussi le sexe, un 6e cas d'école dont Appiah ne traite que marginalement d'en repenser l'identité, mais qui tient une place conséquente dans son éthique de l'identité. L'insistance de Lindbeck sur le rapport entre les identités religieuses et les identités culturelles s'explique par le contexte ecclésiologique et la visée missiologique de son propos. Ses limites admises, j'essaierai de montrer dans les quelques minutes qui me restent que Lindbeck offre d'importantes ressources pour penser une éthique de l'identité qui puisse, à sa manière, réconcilier les exigences présumées contradictoires de l'universalisme écuménique et de l'enracinement identitaire, mais que ce projet d'une éthique écuménique de l'identité souffre chez lui d'une assise éthico-politique insuffisante. D'où ces brèves remarques conclusives destinées à penser avec et contre Lindbeck une éthique écuménique de l'identité. Elles seront au nombre de 4. Premièrement, je l'ai dit à l'instant, mais il me faut le redire plus précisément, le projet d'une éthique écuménique de l'identité ne se rencontre pas chez Lindbeck sous la forme d'un programme clairement dessiné dans ses ramifications éthico-politiques. Si l'on peut parler d'un programme dans les écrits qu'il consacre à ce sujet, c'est dans les termes d'une ecclésiologie aux implications missiologiques paradoxales qu'il se définit. Que ce soit dans Ecumenism and the Future of Belief ou dans The Church Mission to a Postmodern World, l'Église n'assure jamais aussi bien sa présence au monde ou sa pertinence sociale que quand elle s'occupe de ses propres affaires, quand elle cultive les singularités de sa propre identité. Cette thèse n'est manifestement valide que pour le cas d'une communauté ecclésiale dont les valeurs identitaires comprennent une forme de service aux autres qui soit un service de tous, et pas seulement des membres de la dite communauté. Que cette condition soit satisfaite dans le cas d'un christianisme bien compris, c'est ce que Lindbeck montre de façon persuasive, avec des exemples comme ceux des églises engagées dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Mais qu'advient-il quand cette condition n'est pas satisfaite? Par exemple, quand des églises prennent fait et cause pour des mouvements et des partis qui menacent ouvertement ces mêmes droits au nom d'un identitarisme chrétien revendiqué comme tel. Quel principe de régulation et quel moyen de contrainte la puissance publique doit-elle pouvoir mobiliser en pareil cas? Ces questions éthico-politiques restent chez Lindbeck dans l'angle mort d'un programme ecclésiologique et de ses retombées missiologiques. Deuxièmement, il nous faut revenir sur la distinction que Lindbeck établit dans son article de 1989 entre un libéralisme individualiste et séculariste, qu'il rejette, et un libéralisme politiquement pragmatique, auquel il acquiesce. La distinction que Lindbeck trace entre ces deux types de libéralisme, cette distinction donc recoupe à grands traits celle que John Rawls a depuis rendue célèbre entre un libéralisme englobant, qui repose sur une doctrine substantielle du sens de la vie humaine, et le libéralisme politique au sens strict. C'est bon ?
Oui.
Merci, c'est gentil. C'est gentil, merci. Bon, je pense qu'on a tous perdu le fil du coup, mais je reprends ma... Merci beaucoup, Anne-Cathy. Je reprends ma phrase du coup. Distinction de Rawls entre libéralisme englobant et libéralisme politique au sens strict qui ne requiert aucune fondation de cette nature. En élaborant sa stratégie de mission culturelle, Lindbeck cherche à conjurer les effets destructeurs qu'une forme spécifique de libéralisme englobant peut avoir sur les traditions morales cultivées et transmises par les minorités de conviction. Mais il sous-estime, à mon sens, l'hospitalité du libéralisme politique envers ces minorités. Car au sens rigoureux du terme, le libéralisme politique est indissociable chez Rawls de l'idée d'un consensus par recoupement, dont la fonction est de garantir la cohésion d'une démocratie libérale autour d'un socle de valeurs communes. Pour qu'un tel consensus ait lieu, il suffit que les citoyens s'accordent sur les principes fondateurs de leur vivre ensemble. Les raisons ultimes qui justifient ces principes peuvent être aussi variées que le sont les convictions qui cohabitent au sein d'un même espace politique. Les citoyens qui se reconnaissent dans ces convictions et dans les pratiques et les institutions communautaires qui les incarnent peuvent alors apporter leur contribution au débat public à partir de leur propre tradition intellectuelle, de leur propre langage symbolique et conceptuel, de leurs propres références canoniques, etc. Ma troisième remarque conclusive prolonge et complète la deuxième. Ma description succincte et schématique de la notion de consensus par recoupement ne prétend pas rendre raison des complexités de la définition qu'en donne John Rawls, ni encore moins retracer les évolutions qu'elle subit dans son œuvre, mais elle intègre des éléments de la réception critique de cette notion chez des auteurs tels que Charles Taylor, Martha Nussbaum et plus particulièrement en ce qui nous concerne ce soir, Paul Ricoeur. La réflexion de Ricoeur sur le statut des convictions dans un consensus par recoupement mérite en effet, me semble-t-il, une attention particulière dans notre effort pour évaluer la pertinence éthico-politique du programme ecclésiologique de Lindbeck. Dans son essai « Après théorie de la justice » de John Rawls, qui paraît en 1995, Ricoeur invite à comprendre l'idée du consensus par recoupement en la situant dans le prolongement exact de l'idée d'équilibre réfléchi, qui dans le vocabulaire de Rawls désigne un processus complexe d'ajustement mutuel entre le plan procédural d'une théorie de la justice et le plan substantiel des conceptions religieuses, philosophiques et morales professées par les individus ou les communautés composant la société. Dans un consensus par recoupement, les convictions rivales des citoyens d'une démocratie libérale peuvent justifier, fonder le même corps minimal de croyances, mais pour que le dit consensus présente les qualités d'un équilibre réfléchi, ces convictions doivent être bien pesées. C'est la traduction française de considered en anglais. Bien pesées, c'est-à-dire soumises à un travail d'élagage critique pour ne pas être affectées par des préjugés ou affaiblies par des doutes. Le point que Ricoeur souligne dans ce qui n'est somme toute qu'une lecture de Rawls, mais nous savons combien les points d'emphase déterminent une lecture, c'est que seules les convictions dûment pesées et mûrement réfléchies peuvent entrer dans ce lieu d'émulation qu'est la discussion publique. Or, cette exigence implique à son tour le recul herméneutique et critique d'une réflexivité qui ne peut être exercée que de l'intérieur même des communautés de conviction. En contexte chrétien, c'est une tâche qui revient plus particulièrement à la théologie. Peser les convictions, c'est pour ainsi dire son affaire, c'est notre métier. Hein ? En tant que pratique discursive au service des communautés chrétiennes, la théologie a en effet pour fonction de les aider, d'aider ces communautés à prendre part au débat public, en soumettant à son examen les ressources de leur histoire et de leur littérature canonique qui leur permettront de répondre aux défis nouveaux d'un monde en perpétuelle mutation. Mais il est des théologies mieux adaptées à cette tâche que d'autres, et celle de Lindbeck m'y semble particulièrement prédisposée, à condition d'être assortie d'une précision et d'un correctif. J'ai conclu la dernière partie de mon exposé en disant que la mémoire vive de certaines références canoniques partagées constitue pour Lindbeck une condition essentielle de l'intelligibilité même d'un dissensus moral. Je dois ajouter à présent, et c'est la précision annoncée, que pour Lindbeck, ces références canoniques ne sont partagées qu'au prix d'un important travail herméneutique dans lequel sont mobilisées à la fois les ressources classiques de l'exégèse patristique et les ressources modernes de la critique historique. Le consensus fidelium n'est pas donné par la seule lecture des textes de la Bible, mais il est le produit d'une délibération écuménique encadrée par la règle de foi, la regula fidei. L'herméneutique de Lindbeck est en effet une herméneutique procédurale. De même que la procédure judiciaire suppose un ensemble de règles suivant lesquelles doivent se dérouler les actions en justice, l'herméneutique procédurale suppose que des règles encadrent l'interprétation de l'écriture et l'usage des arguments scripturaires en cas de dissensus ecclésial, que celui-ci porte sur des questions doctrinales ou sur des questions morales. Je dois ajouter encore, et ce sera le correctif annoncé, que ce travail herméneutique ne peut ni ne doit être assigné à la communauté politique en tant que telle, comme Lindbeck se risque à le suggérer dans son essai de 1989. Mais que, dans le cadre d'un consensus par recoupement, il répond très exactement à la tâche d'élagage critique ou de peser des convictions qui préparent les minorités créatives au débat public. Ma quatrième et dernière remarque aura pour objet Pas surtout d'ouvrir la discussion, mais aussi d'indiquer encore une possible signification de l'herméneutique procédurale de Lindbeck pour une éthique écuménique de l'identité. J'ai pour l'instant utilisé la formule éthique écuménique de l'identité au sens générique et provisoire d'une sorte de variation théologique sur le thème du cosmopolitisme enraciné qu'Anthony Kwame Appiah place au cœur de son éthique de l'identité. À ce degré de généralité, le projet d'une éthique écuménique de l'identité pourrait se confondre avec une énième tentative de réconcilier les frères ennemis de Macworld et du Jihad, pour reprendre les symboles un peu tapageurs que Benjamin Barber avait forgés dans la première moitié des années 1990, pour désigner la complicité paradoxale du globalisme et du tribalisme, de l'hégémonie devenue mondiale du capitalisme néolibéral, et des réactions identitaires de repli culturel et de morcellement politique provoquées par cette même hégémonie. Or, les bouleversements géopolitiques de ces dernières années ont rendu partiellement obsolètes ces analyses produites au lendemain de la dislocation de l'Union soviétique et de la dissolution du pacte de Varsovie. Comme je l'indiquais en introduction de mon exposé, les mouvements qu'on regroupe aujourd'hui sous le label de l'identitarisme, et qui le revendiquent d'ailleurs volontiers comme leur, sont traversés de tendances contradictoires au repli communautaire d'un côté, à l'hégémonie politique nationale, voire supranationale de l'autre. En outre, la mondialisation économique contre laquelle ces mouvements identitaristes prétendent offrir un rempart ou un refuge connaît elle-même de profondes mutations avec la montée en puissance d'un capitalisme dit de connivence, crony capitalism en anglais. L'expression a initialement été forgée pour désigner le type de népotisme clanique mis en place sous la dictature de Ferdinand Marcos aux Philippines, mais elle s'est entre-temps révélée très utile pour comprendre les stratégies économiques des régimes oligarchiques de Chine, de Russie et des États-Unis de la seconde administration Trump. Comme le suggère l'économiste suédois Anders Åslund dans son essai de 2019 « Russia's Crony Capitalism, the Path from Market Economy to Kleptocracy », je traduis peut-être hein, le chemin d'une économie de marché à la kleptocratie, pour définir ce que c'est le capitalisme de connivence. Donc, ce que suggère Åslund, c'est que ce capitalisme d'un genre nouveau n'a plus guère de commune mesure avec le néolibéralisme de Friedrich Hayek ou de Milton Friedman, dont on pourrait dire aussi, on pourrait nommer des politiques qui l'ont mis en œuvre, en particulier Ronald Reagan. Et donc, plus guère de commune mesure, avec ce néolibéralisme dont la fin de la guerre froide semblait annoncer la domination mondiale définitive et sans partage. Åslund estime que la confiscation du pouvoir et l'accumulation des richesses au profit d'une oligarchie clanique sont au cœur de ces régimes et que leurs discours centrés sur les revendications identitaires de la nation, voire de l'empire, n'en sont que les paravents rhétoriques. De la campagne chinoise de dénonciation de l'apparence efféminée des vedettes masculines de la pop culture sud-coréenne et de son influence supposément néfaste sur ses admirateurs chinois, jusqu'à la récente relance par la Russie de l'intervision, qui fut en son temps la version soviétique du concours Eurovision de la chanson, en passant par la censure tous azimuts de l'administration Trump contre tout ce qu'elle assimile de près ou de loin à une manifestation de wokisme, les exemples d'instrumentalisation des guerres culturelles par des régimes oligarchiques ou des gouvernements qui travaillent à le devenir sont si nombreux que la tâche de concevoir une éthique écuménique de l'identité informée par le travail d'élagage critique d'une herméneutique procédurale me paraît urgente et vitale pour permettre aux chrétiens de toute confession de dire « not in my name », pas en mon nom. Merci de votre attention.
Un très grand merci, Barbos. Vous entendez? C'est bon? Oui. Très grand merci pour cette très belle conférence qui ouvre notre colloque. On peut vous être vraiment très reconnaissant d'avoir enraciné notre réflexion sur les identités comme vous l'avez fait, c'est-à-dire en partant, bon, demain nous parlerons beaucoup des questions touchant les identités ecclésiales, confessionnelles, et là vous avez vraiment le souci d'enraciner notre réflexion dans une analyse du problème des identités sectaristes, etc., et autres notions de ce genre dans les sociétés, en partant d'un auteur extrêmement intéressant, stimulant, Lindbergh. Merci de nous avoir montré son évolution dans l'appréciation de la sécularisation. Je ne vais pas en dire plus pour pas couper l'arche du pied à celles qui vont maintenant intervenir, mais je pense peut quand même aussi souligner l'importance des réflexions critiques, enfin des réflexions critiques au sens à la fois positif et négatif. Vous avez vraiment eu à cœur de dire combien la pensée de l'univers offrait des ressources, et en même temps vous avez précisé sur quel point on pouvait discuter ou apporter en tout cas des précisions. Je n'en dis pas plus puisque nous avons maintenant entendu deux réactions, d'une part d'une théologienne catholique et d'autre part d'une théologienne orthodoxe. J'ai le plaisir d'abord de présenter Brigitte Cholvy, qui est docteur en théologie. Elle a fait une thèse sur la question du surnaturel chez Henri de Lubac, le surnaturel incarné dans la création. Vous avez été professeur de théologie à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Institut catholique de Paris. Et vous avez aussi mené, en dehors de l'Institut catholique, des réflexions importantes dans divers domaines, dans le domaine de la question de la place des laïcs dans l'Église, ou les réflexions sur les rapports entre science et foi, et d'autres domaines encore. Et j'ajoute que vous êtes très engagé dans le dialogue œcuménique, entre autres à travers votre participation au groupe de dialogue catholique-protestant, le groupe des dons. Donc je vous laisse la parole pour une première réaction, avant d'entendre la réaction de Julia.
Merci beaucoup, merci de l'invitation et merci de donner une occasion de réagir à une grande conférence, me semble-t-il. Je crois qu'on peut employer cet adjectif-là, vraiment. Mais une conférence qui, personnellement, me dépasse. Me dépasse parce que ce n'est pas mon domaine de compétence. Donc j'entends vraiment beaucoup de choses très, très riches et très pertinentes, mais j'ai du mal à en faire un écho dans mon domaine de compétence. Donc je vais réagir dans mon domaine de compétence, donc ça va être partiel, très partiel. C'est l'idée. Donc premièrement, quelques mots que vient de dire très bien Michel Fédou. Je suis catholique, j'ai été professeur de dogmatique à l'Institut catholique, et je m'intéresse à l'œcuménisme. Ce qui veut dire que je vais réagir en catholique, donc avec des réactions, enfin des systématismes catholiques peut-être, et puis je vais réagir quand même plutôt sur le terrain de la théologie dogmatique. Donc je vais oublier, et ça sera honteux, ça sera vraiment, enfin j'en ai honte moi-même et je le proclame, mais je vais réagir sur le domaine dogmatique, et en fait, en plus je ne connais pas Lindbergh. Donc vraiment, j'ai tous les défauts, tu vois. Bon, je ne connais pas Lindbergh au sens de connaître cet auteur, d'avoir travaillé cet auteur. On peut le connaître un peu, mais l'avoir travaillé, certainement pas. Et alors, ce qui me... La branche, si je puis dire, sur laquelle je m'accroche, c'est au fond que tout ce qui a été dit, me semble-t-il, hein, sous réserve de confirmer ou de vraiment infirmer, c'est qu'au fond, c'est un programme ecclésiologique. Oui, merci. De part en part. Alors, ce qui veut dire que je vais pas le regarder sous l'angle politico-sociologique, etc. Enfin, moi, je vais le regarder sous un angle plutôt ecclésiologique. Un peu catholique. Voilà. L'objectif premier que j'ai compris aussi, c'est de voir comment la proposition de Lindbergh, qui est donc ce programme ecclésiologique, comment ce programme permet de penser une éthique œcuménique de l'identité par l'étude d'une trajectoire théologique. Et théologique, hein, j'ai vraiment cette impression-là. Bon. Et avec ces deux propositions qui ont été, je répète hein, là simplement, ces deux propositions assez troublantes en termes de vocabulaire, en tous les cas, quand on le dit en français, peut-être que ça donne autre chose, ça a une autre sonorité en anglais, mais en américain. D'une part, donc, d'un sectarisme œcuménique, qui pour moi, vraiment, c'est de la pure contradiction dans les termes. Bon. Donc c'est que je dois pas comprendre, hein, c'est évident. Mais c'est bon, c'est pour tout le monde et je pense qu'en plus il veut provoquer un petit peu. Bon voilà. Alors plus grave si je puis dire, parce que bon il y a la formule très bien, mais qui semble, si je comprends un peu, qui semble permettre aux églises de se protéger, hein, avec cette phrase que j'ai retenue, se démarquer pour ne pas se dissoudre. Bon. Est-ce que c'est ça l'objectif qu'on a à tenir? Je m'interroge vraiment, hein, bien sûr. Donc, premièrement, donc, cet sectarisme œcuménique. Et puis, deuxièmement, cette mission culturelle, alors qui, bien sûr, n'est pas le retour à une société chrétienne. Là, je pense que c'est clair, quoi, ça. Mais quand même, une mission culturelle qui a pour objectif de donner des outils venant du christianisme, probablement, à une argumentation raisonnée et donc à un débat démocratique où il y a vraiment débat et vraiment avancé dans le débat. J'ai l'impression que il est pas très nécessaire de lire beaucoup de choses dans les journaux dans les journaux, disons en général, pour se dire que il y a vraiment pas ces outils là aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait plus ces outils du temps de Lindbeck? Et quand il fait l'évocation qui a été notée rapidement du débat guerre de sécession avec l'esclavagisme, est-ce que les outils étaient là? J'ai un doute, enfin je me pose la question. Bon, voilà, je me pose la question. Alors, j'aurais en fait deux axes. Un premier axe qui est vraiment qui démarre sur la question des contextes et qui va poser la question des écritures. Hein, des contextes, les écritures. Et puis un deuxième axe qui sera autour de l'altérité. Se démarquer pour se protéger, j'ai l'impression, mais sous réserve que ce soit bien ça, j'ai l'impression que ça élimine radicalement, et alors j'ajoute gravement, la richesse et la puissance de l'altérité. Alors est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'il y a des choses à nuancer autrement? Bon, première question, premier axe, disons, c'est la prise en compte des contextes, et donc ça me conduit à aller voir un peu comment il traite les écritures, au fond. Évidemment, Lindbeck écrit années 68, 80, enfin, les dates qui ont été dites, donc il y a 50 ans, quoi, à peu près. Donc, bien entendu, on est devant des changements de contexte majeurs. Si je situe à peu près sa manière contextualisée, au fond, c'est, je retiens deux mots, hein, libéralisme, alors qui sera pragmatique, qui sera politique, ok, et puis sécularisation, qui est la défense ou la volonté ou le désir d'avoir une société sans aucune référence au divin. Alors que ce soit le contexte de Lindbeck et que ce soit là-dedans qu'ils doivent penser, et penser un programme ecclésiologique, j'ai absolument pas d'avis là-dessus, enfin, je suis d'accord. Sauf que c'est plus du tout notre contexte. Et alors, et ce n'est que 50 ans plus tard, mais si j'essaye de qualifier notre contexte, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est passé dans une situation d'envahissement du religieux, de radicalisme religieux. Donc protéger les églises, les communautés, dans ce contexte-là, est-ce que c'est vraiment le bon truc, quoi, la bonne manière de faire? Et en plus, cet envahissement du religieux, ces radicalismes religieux, qui met en cause d'ailleurs la lecture, mais je ne suis pas du tout sociologue, donc c'est facile de ma part de dire ça, mais qui, je trouve, met en cause, pour une part, cette évidence que nous allions forcément la terre entière vers la sécularisation. On n'y va pas, quoi, on n'y est plus, ou on y retournera un jour, ça je n'en sais rien, et puis personne n'en sait rien d'ailleurs, mais vraiment c'est plus ça qui est caractéristique du moment, me semble-t-il. En plus de quoi, cet envahissement du religieux, ce radicalisme religieux, au pluriel, hein, bien sûr, donc dans à peu près toutes les religions, produisent des comportements, alors là, pour le coup, sectaires. Et le mot veut dire, enfin, c'est pas un mot déplacé, hein, des comportements sectaires qui sont des comportements d'exclusion, de violence. Bon. Donc, j'ai vraiment une vraie difficulté à entendre sectarisme œcuménique, même s'il est œcuménique. Et d'ailleurs, Appia, quand il parle de cosmopolitisme, voilà, enraciné, ouais. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous disiez que c'était la même chose, mais pour moi, c'est carrément l'inverse. Parce que c'est la majeure et la mineure, quoi. C'est l'histoire de la majeure et de la mineure. La majeure, c'est le sectarisme, chez Lindbeck. Alors que c'est le caractère cosmopolite, ça je le dirais plus facilement, chez Appiah. Alors après, il va y avoir une ouverture, parce que forcément le mot œcuménique veut dire ouverture, j'imagine, hein, ouverture aux autres, écoute des autres. Et puis de l'autre côté, non, ce qui est la mineur, ce que j'appellerais la mineure, c'est l'enracinement. Donc est-ce que vraiment, alors là non plus, je ne connais pas Appiah. Donc, non, je ne sais pas du tout pourquoi j'étais invitée, je connais rien. Au moins rien de tout ça. Est-ce qu'Appiah, quand il parle de cosmopolitisme enraciné, fait référence à Lindbergh qui dit je me mets dans la continuité ou au contraire je me mets dans l'opposition? Non, ok, voilà. Donc, okay. Voilà, exactement. Donc cette question du contexte. Et alors, ça me fait poser la question suivante, c'est qu'au fond, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que Lindbergh parle pour l'Occident. Il est américain, ça c'est bien clair. Mais au fond, sa manière de penser, alors penser l'Église, parce que il a le droit de parler pour l'Occident. Enfin, vraiment, ça peut pas être une critique cette phrase-là. Il parle pour, enfin, il se situe là où il est. Mais penser un programme ecclésiologique tellement marqué par, me semble-t-il, hein, par une perspective occidentale, ça me pose une difficulté. Alors, pour quelqu'un qui a été observateur à Vatican II, c'est bien ça, n'est-ce pas, observateur luthérien? Je me dois de rappeler ce que disait Karl Rahner, mais d'autres avec lui, qu'une des découvertes, d'une des expériences du Concile, pour les participants, les évêques, les experts, etc., c'était de découvrir que c'était ni plus le Concile de Trente, ni plus le Concile de Vatican I européen, mais qu'on était passé à une Weltkirche, une Église monde. Et que donc, six programmes ecclésiologiques il y a, et il y a, je pense vraiment, hein, est-ce qu'on peut le faire à l'occidental, chez soi au fond, parce que c'est chez lui certainement. Mais comment est-ce que l'Église monde, qui est l'expérience de l'Église d'aujourd'hui, me semble-t-il, qui était déjà expérimentée à Vatican II, mais qui est l'expérience de l'Église d'aujourd'hui, comment est-ce que dans les perspectives développées par Lindbergh et sociologiques et politiques, là, on est bien d'accord que c'est ces perspectives-là. Comment est-ce que on tient compte de cet Église-monde? Et puis, penser une Église-monde, c'est penser des cultures, des contextes, des cultures, et des cultures qui sont, peut-être pas dire antinomiques, mais qui sont diverses. Et ça me fait venir à la question des Écritures. S'il y a des canons scripturaires, qui est ce sur quoi, il semble-t-il, il faut s'appuyer, s'il y a des canons scripturaires, comment est-ce que, dans des cultures tellement diverses, comment peut-il y avoir un seul imaginaire scripturaire? Et j'aurais tendance à dire, il y a des imaginaires scripturaires. Pour donner un exemple de ce que je veux dire, un débat, en tous les cas dans la tradition catholique, aujourd'hui, dans la confession catholique, pardon, c'est avec un certain nombre de lieux non occidentaux, c'est de s'interroger sur la pertinence d'utiliser l'Ancien Testament, les Écritures de Jésus, hein, dont Jésus disposait, pour des cultures qui ont elles-mêmes leur propre texte culturel et religieux d'ailleurs. Alors, j'ai des arguments pour dire que l'Ancien Testament a sa place, etc. Mais n'empêche que ce que je veux simplement pointer ici, c'est la question. La question qui est, l'imaginaire scripturaire est-il vraiment si unique, un imaginaire, simplement parce que nous sommes dans un contexte nouveau peut-être par rapport à Lindbergh, encore que, qui est un contexte des cultures. Et des confrontations des cultures, évidemment, hein, pas une belle harmonie entre les cultures, bien sûr. Donc, cette insistance sur dépasser l'oubli scripturaire, et donc rentrer dans, enfin essayer de déployer un imaginaire scripturaire commun, cette insistance-là me pose question dans le monde présent, maintenant. Je continue encore un petit peu, je peux ? D'accord, c'est très bien. Donc ça, c'est le deuxième point que je veux aborder maintenant. C'est la question que je mettrai sous le chapeau de l'altérité. Vous dites... Alors, vous dites en faisant référence à Vatican II, donc je suis contente que vous fassiez référence à Vatican II, mais je suis pas contente, bien sûr, mais je suis pas contente que ce soit pour parler de ceux qui sont contre. Bon, mais vous dites, la pertinence sociale des églises ne dépend pas d'une mise à jour, et puis là on le dit en adjournamento, il faut bien montrer de quoi on parle, de qui on parle, donc une mise à jour de leur langage, de leur forme de vie, qui serait le gage de leur capacité d'adaptation aux attentes présumées des sociétés qui les abritent, mais elle dépend au contraire de leur aptitude à entretenir et développer les qualités singulières de leur langage et de leur forme de vie spécifique. Je vous cite. Là aussi, j'ai une difficulté, parce que ça revient, est-ce que ça ne reviendrait pas à dire que, se formuler ainsi, que ou bien, et le ou bien est exclusif, n'est-ce pas, ou bien il faut défendre, il faut s'adapter, et dans ce cas-là, on va vers la perte, hein, vers parler pour aujourd'hui, mais ça sera presque nécessairement une perte, ou bien il faut être dans le spécifique, mais le risque que je vois, évidemment, c'est le risque de l'isolement. Donc la question, c'est pas les conséquences de chacune des positions, mais c'est le ou bien de ma phrase. Est-ce que vraiment on est dans une option exclusive d'exclusion de l'un ou l'autre, ou est-ce qu'au contraire, et ce serait peut-être plus la position que je défendrais, c'est précisément la mise à jour, c'est-à-dire parler pour aujourd'hui aux personnes d'aujourd'hui dans leur situation d'aujourd'hui, pardon, hein, de la répétition, mais c'est précisément dans la mise à jour, dans l'adaptation. Un autre vocabulaire qu'on pourrait employer, c'est l'inculturation, mais peu importe ces mots-là, enfin la diversité de ces mots, c'est précisément dans la mise à jour que quelque chose du spécifique se dit. Et pas dans « ou bien on est d'un côté, ou bien on est de l'autre ». C'est dans ce travail de mise à jour. J'évoque quelque chose qui se passe à peu près de l'autre côté de la rue, ou disons de l'autre côté du Bon Marché, donc ça veut dire au MEP, là actuellement, aux Missions étrangères de Paris. Il y a une exposition sur un père des MEP, Jacques Dourne. Jacques Dourne qui s'est trouvé, missionnaire naturellement, sur les hauts plateaux du Vietnam, et qui explique comment le travail qu'il a fait pour arriver à dire la foi chrétienne, dans les mots audibles, compréhensibles, vivants, féconds, pour cette civilisation-là, qui d'ailleurs n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Vraiment, aller de l'autre côté de la rue, c'est très intéressant. Mais ce qui veut dire que là, il y a une question anthropologique. Il y a une question anthropologique qui est quelle est la place qu'on va donner à une doctrine de la création ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'être humain, quelle que soit sa culture, qui n'est pas à le rapporter à notre culture, mais qui, dans sa culture, peut entendre la bonne nouvelle, on va dire. Dernier élément que je voudrais pointer. Vous insistez, en lisant Lindbeck, sur une des valeurs du christianisme, qui est le service de l'autre. En insistant sur un des points, une des brèves remarques finales, quand il n'y a pas le service de l'autre, ou quand il y a opposition à cela, il y a une vraie difficulté. Moi, il me semble, service de l'autre, évidemment, on ne va pas dire non à cela, évidemment, mais il me semble qu'il y a aussi, et alors, histoire d'engager la conversation un peu fermement, d'abord, non pas simplement le service de l'autre, mais l'intérêt pour l'autre. Ce que tu vis m'intéresse. Ce que tu penses m'intéresse. Même si je ne le comprends pas bien d'ailleurs, hein, parce que c'est loin de moi. Ce que tu vis m'intéresse, ce que tu penses m'intéresse, au point que ça m'intéresse tellement, donc c'est plus le service, c'est l'intérêt, vous voyez. Ça m'intéresse tellement que je suis capable d'entendre quelque chose qui va peut-être me faire changer. Est-ce que tout ça, ça ne serait pas des questions à poser à Lindbeck, mais bon, ça c'est une chose, mais des questions à poser à Marc Boss. Oui.
Merci
beaucoup.
Merci beaucoup Brigitte. Merci. Et sans plus attendre, je propose qu'on entende maintenant la voix de Julia Nedvidovic, qui est professeure de patrologie, d'histoire des concilios œcuméniques et de bioéthique à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Vous êtes titulaire d'un doctorat en théologie et vous travaillez beaucoup dans les champs de l'anthropologie chrétienne et aussi, donc, comme je le disais, l'histoire des conciles œcuméniques et la patristique grecque. Voilà, vous avez publié notamment un ouvrage sur Maxime le Confesseur et, comme Brigitte, vous êtes engagé dans le dialogue œcuménique. Entre autres, vous êtes membre du comité de dialogue catholique orthodoxe en France. Donc, si vous pouvez, en une dizaine de minutes aussi, donner une réaction, une réponse, entre guillemets, à ce qui a été dit par Marc Boss dans son intervention.
Merci beaucoup. Merci aussi pour l'invitation, même si je suis membre du groupe qui a travaillé dans la recherche. Et merci beaucoup, Marc, pour l'exposé qui, comme Brigitte, m'a fait entrer dans un univers, dans une grammaire, dans un langage qui m'échappe totalement. Alors, moi, j'ai fait quand même un exercice de lire ton interprétation et d'essayer de voir comment est-ce qu'il résonne en moi en tant que théologienne orthodoxe. Donc j'aurais pas la possibilité de développer point par point tout ce que j'ai retenu, mais je m'attarderai peut-être à celui qui est en lien avec les questions du colloque. Donc. Alors, la relecture du programme ecclésiologique de George Lindbeck à travers les notions, et je vois qu'on est resté sur les mêmes points qui nous ont marqués, le sectarisme écuménique et puis la mission culturelle, à mon avis, a grand mérite de nous inviter à penser ensemble deux réalités qui sont souvent dissociées, à savoir d'un côté la fidélité confessionnelle et puis de l'autre côté la responsabilité universelle des églises dans un monde contemporain. Alors, cette articulation qui traverse tout l'exposé constitue à mon sens un enjeu majeur pour la réflexion écuménique actuelle et plus encore pour la compréhension même de la vocation ecclésiale à l'âge de la sécularisation. Et là, je serais d'accord avec le constat de Brigitte qu'on est un peu en dehors de ce que lui, il annonce. Mais néanmoins, il me semble important de s'arrêter parce que là, on peut trouver des nœuds, des clés pour penser aujourd'hui, je dirais même. Donc, l'intérêt du travail de Lindbeck, tel qu'il est ici revisité, réside précisément dans cette tentative de répondre au double défi que rencontre la tradition chrétienne, d'un côté celui d'un pluralisme culturel et religieux devenu irréversible, et de l'autre celui d'une perte de langage commun dans les sociétés sécularisées, où la foi risque d'être confinée de plus en plus à la sphère du privé, même si on voit le contraire aujourd'hui. Alors, vous montrez comment Lindbeck, dès les années 60, propose une voie paradoxale. Donc, pour retrouver une présence signifiante dans l'espace public, l'Église doit d'abord redécouvrir la densité de sa propre identité. Alors, en d'autres termes, la fidélité à soi n'est pas un repli, mais une condition d'ouverture. Et là, je trouve l'actualité de cette idée. Cette intuition, dont la fécondité demeure aujourd'hui remarquable, situe Lindbeck au cœur des grands débats théologiques et philosophiques du XXe siècle, ceux qui opposent ou tentent aussi de concilier, donc on a les deux, universalisme et enracinement, dialogue et cohérence interne, aggiornamento, et puis la continuité dans la tradition. Alors, je nous invite à aller plus loin encore, en analysant l'évolution de Lindbeck, et ça j'ai beaucoup apprécié, parce que ça le positionne en tant que théologien dans une relecture de nos sociétés. Donc il y a deux ouvrages, vingtaine d'années d'espace, où tu montres comment l'enthousiasme initial pour la cité séculière se double d'une inquiétude devant les effets corrosifs de la déchristianisation culturelle. L'enjeu n'est plus seulement de survie donc des communautés chrétiennes, mais la possibilité même d'un langage commun, du bien et du sens dans la société. Et je le retrouve même aujourd'hui où il y a la remontée, en fait, de religiosité, mais sauf que le langage commun nous échappe, même au sein de nos propres églises. Alors, c'est pourquoi l'idée de mission culturelle devient chez Lindbeck le prolongement logique du sectarisme écuménique. Alors, à comprendre peut-être que je le comprends mal, les églises, en cultivant leur propre idiome spirituel, contribuent, sans le vouloir, à préserver les conditions même du vivre ensemble démocratique. Alors, cette relecture met donc en évidence un paradoxe qui peut être fécond. C'est en affirmant leurs différences que les églises peuvent encore participer à l'unité du monde, parce qu'elles préservent un dialogue éclairé des théologiens peut-être. Le christianisme, pour Lindbeck, comme pour toi, donc, demeure une ressource critique et imaginative pour penser la société au-delà des catégories utilitaristes et consuméristes. En cela, leur dialogue s'inscrit dans la grande tradition des théologies publiques, celle qui refuse de réduire la foi à une affaire de conscience individuelle et qui reconnaissent dans l'Église une forme de rationalité propre, capable de dialoguer avec les langages du politique, du scientifique et du culturel. Donc, le dialogue dans le cadre de bioéthique s'avère justement très pertinent là-dessus. C'est donc à partir de cette relecture que je voudrais pour ma part maintenant proposer quelques éléments de réflexion. Alors, mon propos n'a pas pour ambition, bien évidemment, de contester ta lecture, qui me paraît d'une justesse vraiment intellectuelle et d'une finesse remarquable. Et j'ai passé quand même des jours à lire pour essayer de décortiquer tous les détails. Donc, je pense que la lecture posée vraiment est nécessaire. Mais d'en souligner les prolongements possibles, notamment à la lumière de la théologie chrétienne orientale, qui conçoit la relation entre identité et universalité, non pas comme une tension à résoudre, même si elle est importante, mais comme un mystère à vivre. Et là, peut-être, j'ai retrouvé des éléments dans ce que Brigitte disait. Donc, dans la perspective orthodoxe, la fidélité à la tradition ne se définit pas par la préservation d'un patrimoine clos, mais par la participation vivante à une vérité qui nous dépasse tous. Alors, c'est cette idée parfois implicite chez Lindbeck que je souhaiterais rendre plus explicite, l'identité ecclésiale comme communion dynamique, comme espace de transformation, je dirais même transfiguration, plutôt que de délimitation. Alors, je sauterai plusieurs pages où j'essaie de voir les axes que je retiens de manière positive et puis des enjeux critiques. Par manque de temps, je vais aller immédiatement vers l'axe éthique écuménique de la communion. Alors, là, il y a la tension fondamentale qui traverse donc l'œuvre de Lindbeck, selon ta lecture, entre fidélité communautaire et ouverture universelle, entre identité et mission. Alors, dans la dernière partie, notamment de ton exposé, tu proposes une expression particulièrement éclairante hein, pour désigner l'enjeu de ces tensions, une éthique écuménique de l'identité. Alors, cette formule, à la fois, je trouve élégante, suggestive, mérite d'être prolongée. Elle invite à penser l'écuménisme non seulement comme un dialogue doctrinal ou institutionnel, même si ceux-là sont fondamentaux, personne ne dira le contraire, mais aussi comme une véritable éthique. Alors, c'est-à-dire une manière d'habiter la différence, une attitude morale et spirituelle face à l'altérité. Là, on se retrouve par rapport à notre séminaire sur le discernement moral dans les églises. En ce sens, la relecture de Lindbeck dépasse le cadre strict de l'ecclésiologie pour rejoindre une anthropologie et aussi une philosophie du vivre ensemble. Alors, là, je serai en trois grands points. L'un des points les plus forts de la conclusion réside dans la mise en dialogue de Lindbeck avec le philosophe Appia, que je découvre aussi, et sa notion de cosmopolitisme enraciné. Il y a là, à mon avis, une idée très forte. Le défi de la modernité religieuse ne consiste pas à choisir entre enracinement et ouverture, mais à les tenir ensemble. Autrement dit, l'identité ne devient féconde que lorsqu'elle s'ouvre à ceux qui la dépassent. Et dans cette perspective, une éthique écuménique de l'identité pourrait être comprise comme la capacité à demeurer soi sans cesser de s'ouvrir à l'autre. À reconnaître que l'universalité chrétienne ne s'impose pas par effacement des différences aussi entre nous, mais par leur transfiguration dans une communion qui serait plus large. Donc c'est déjà en filigrane ce que Lindbeck entrevoyait dans la tension entre sectarisme écuménique et mission culturelle. Les communautés ne servent le monde qu'en demeurant fidèles à elles-mêmes, mais cette fidélité ne devient vraiment chrétienne que lorsqu'elle est vécue comme service. Service, que je développerai avec ce que vient de dire aussi Brigitte. Pour que cette éthique de l'identité devienne pleinement écuménique, il faut dépasser la logique du miroir. Celle où on a affaire à chaque tradition qui se contemple et se préserve, pour essayer peut-être d'entrer dans la logique de la communion, où chaque tradition se reçoit et se donne entre elle et puis de par la parole de celui qui les fonde. L'identité chrétienne, si elle est véritablement ecclésiale, ne se constitue que dans la relation. Elle est toujours identité en Christ et dans l'esprit. Alors, en d'autres termes, l'éthique de l'identité trouve sa vérité dans une éthique de la communion. Je serais plutôt allée vers ce sens-là. Dans la perspective orthodoxe, peut-être que c'est ça l'ajout et cette lecture orthodoxe, ces dynamiques se formulent en termes de kinonia et de la kénosis. Alors, l'Église est communion parce qu'elle est issue du mouvement kénotique du Fils et du don de l'Esprit. Sa fidélité consiste à reproduire ce mouvement, se vider de soi pour se donner à l'autre, sans cesser d'être soi. C'est là, me semble-t-il, le lien où la réflexion de Lindbeck pourrait rencontrer une parole inspirée par la théologie orthodoxe. Donc, l'identité chrétienne n'est pas un état, mais c'est un mouvement. Non pas une délimitation non plus, mais un dynamisme de don et de réception. Alors, deuxième point, une telle éthique écuménique, si on essaie de la penser, ne peut être simplement normative. Elle est avant tout spirituelle. Elle suppose une conversion du regard, passer d'une logique de la défense à une logique d'hospitalité, ce qui était bien dit. Cela ne signifie pas, bien évidemment, relativiser la vérité de sa tradition, mais reconnaître que cette vérité ne se manifeste jamais que dans la charité. Et là, le terme charité, je le comprends en termes théologiques. Ce n'est pas simplement une bienveillance, une tolérance de l'autre, voilà, vous êtes bien là, c'est très gentil, mais c'est le mode même de la connaissance de Dieu. Dans la première épître de Jean, hein, la formule « Dieu est amour » ne désigne pas un attribut moral, mais une révélation ontologique. Une éthique écuménique de la communion ne peut se fonder que sur cette conviction. La vérité chrétienne se donne sous la forme de l'amour, et l'amour véritable est toujours la communion dans la vérité. Donc cette attitude implique aussi un rapport renouvelé à la culture. Dans le langage de Lindbeck, la mission culturelle désignait l'influence involontaire qu'exerce une communauté fidèle à son idiome. Dans une perspective peut-être plus spirituelle, on pourrait dire que la mission culturelle devient témoignage eucharistique. Alors, elle consiste à offrir le monde à Dieu, dans toutes nos diversités, même séparées, et à offrir Dieu au monde avec tous nos imaginaires différents et différenciés. Alors, ce geste qui est au cœur de la liturgie traduit de manière concrète l'éthique de la communion. Reconnaître que tout ce qui est reçu peut devenir don et que le don accomplit l'identité de celui qui le fait et qui le reçoit. Alors, vous évoquez à juste titre la lutte pour les droits civiques comme exemple de cette fidélité active. Les églises qui se tenaient aux côtés des opprimés n'ont pas trahi leur identité. Elles ont manifesté, de même, dans une perspective peut-être plus large, l'éthique écuménique de la communion invite les communautés chrétiennes à penser leur engagement dans le monde, non comme un compromis avec la modernité, mais comme un prolongement de leur vocation baptismale. Donc faire du monde un espace de réconciliation. Troisième point, éthique écuménique, pour être vraiment praticable, doit devenir aussi une herméneutique. C'est le deuxième point. Une manière d'interpréter les différences non plus comme des menaces, mais comme des lieux théophaniques. Si chaque église, chaque culture, chaque tradition porte une manière singulière de dire la foi, alors le dialogue écuménique devient un acte de reconnaissance mutuelle de ces épiphanies partielles. C'est ici que la théologie de la parole et celle de l'esprit peuvent se rejoindre. L'esprit, dans la tradition chrétienne, ne se manifeste pas dans l'uniformité, mais dans la diversité harmonisée. Alors, comme le souligne saint Irénée de Lyon, là où est l'esprit, là est l'église, et là où est l'église, là est l'esprit et toute grâce. L'unité véritable ne consiste donc pas à effacer les différences, mais à les ordonner dans l'amour et la vérité. En soulignant donc le lien entre fidélité communautaire et service universel, tu rejoins, cette intuition, le dialogue écuménique ne cherche pas une neutralité doctrinale, impossible, mais une communion dans la diversité. C'est ce que l'on pourrait appeler une catholicité, peut-être polyphonique, où chaque tradition exprime à sa manière la même vérité du Christ. Alors, dans cette optique, l'éthique écuménique de la communion ne relève pas seulement du devoir moral, mais d'une compréhension théologique du réel. La création elle-même est relationnelle, traversée par le désir de Dieu de rassembler toutes choses en lui. Participer à ce mouvement de rassemblement, c'est aussi participer à la vocation même de l'Église. La fidélité ecclésiale n'est donc pas et n'est plus la défense d'une frontière, mais la garde d'un mystère, celui d'un Dieu, qui se fait relation, d'un Dieu qui s'unit sans confondre, qui distingue sans séparer, pour reprendre le langage théologique de nos conciles. L'éthique écuménique de la communion consiste à imiter donc cette manière divine d'aimer, en reconnaissant dans chaque altérité une possibilité de rencontre avec le visage de Dieu. Et là, il y a un très beau ouvrage de Monseigneur George Hodre, qui dialogue avec l'islam et qui parle de la sainteté, en fait, dans l'écuménisme. Alors, brève conclusion. Ce que l'exposé de Marc nous rappelle avec force, et ce que cette relecture a cherché à prolonger, c'est que la question écuménique n'est pas d'abord une question institutionnelle ni même doctrinale, elle est existentielle. Elle engage la manière dont les communautés chrétiennes, dans un monde pluraliste et sécularisé, comprennent le sens même de leur fidélité à l'Évangile. Lindbeck, qui est relu par Marc, nous apprend que cette fidélité ne peut plus se concevoir comme la défense d'un territoire symbolique, mais comme une grammaire de vie, une manière d'habiter le monde dans la vérité reçue. C'est pourquoi la distinction entre sectarisme écuménique et mission culturelle ne désigne pas deux stratégies opposées, mais les deux mouvements d'un même dynamisme. Se recueillir pour se donner, se différencier pour servir, s'enraciner pour rayonner. Donc ce double mouvement, Marc le met admirablement en lumière, l'Église, pour rester signifiante, doit cultiver la densité de son idiome propre, mais pour rester fidèle à son Seigneur, elle doit laisser cet idiome devenir partageable, hospitalier, capable de signifier au-delà d'elle-même. Autrement dit, l'identité chrétienne n'est pas un lieu de clôture, mais un lieu de passage, je dirais même un seuil qui nous ouvre à l'eschatologie. Alors, l'enjeu est alors de savoir comment penser cette fidélité ouverte dans des conditions du monde contemporain. Trois dimensions que nous avons parcourues apparaissent ici comme les pôles d'un même champ de tension, donc la dimension politique, où la fidélité se confronte au pluralisme. Lindbeck et à sa suite Marc nous invitent à reconnaître la valeur du cadre libéral démocratique sans céder à l'illusion d'une neutralité morale. La tâche des Églises est alors de nourrir cet espace public non par autorité, mais plutôt par exemplarité, en rappelant que la liberté ne se soutient que de la recherche partagée du bien. La dimension théologique, où la fidélité se confronte à la question de la vérité, en concevant le christianisme comme un langage, Lindbeck a donné aux Églises un modèle de cohérence symbolique, mais c'est en redécouvrant le caractère sacramentel de ce langage, comme participation à la parole vivante, que l'on peut dépasser la simple cohérence pour entrer dans la communion. Là se trouve peut-être la contribution propre de la tradition orthodoxe, rappeler que la vérité chrétienne n'est pas seulement une forme de discours, mais une forme de vie transfigurée par la grâce. La dimension écuménique et éthique, enfin, où la fidélité devient communion, en reliant l'identité ecclésiale à la notion d'hospitalité. Marc, tu nous invites à penser l'unité des Églises comme un exercice de charité intellectuelle et spirituelle, apprendre à reconnaître dans la différence, non pas une menace, mais un appel. C'est ce que la tradition orientale pourrait exprimer en termes de sobornos, cette catholicité vivante qui ne résulte pas d'une uniformité imposée, mais de la communion libre des personnes dans l'esprit. Alors, ainsi comprise, la fidélité chrétienne n'est pas l'opposé de l'ouverture, elle est la condition même, car seule une identité enracinée peut se rendre véritablement disponible à l'autre. Seule une parole qui est habitée peut devenir hospitalière. En ce sens, l'éthique écuménique que tu évoques n'est pas une simple morale du dialogue, elle est une spiritualité du discernement, celle d'une Église appelée à conjuguer le courage de la différence et la douceur de la rencontre. Alors peut-être pourrions-nous dire, en écho à la théologie orientale, que la vocation écuménique de l'Église n'est rien d'autre que la manifestation de sa dimension trinitaire. Un Dieu de communion appelle une Église de communion à un monde de communion. L'unité dans cette lumière n'est pas une fin à atteindre, mais une vie à partager. La vie même de l'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc ontologiquement parlant. En conclusion, si l'on devait retenir une seule leçon de cette lecture croisée que tu fais et que je fais de ta lecture de Lindbeck, ce serait celle-ci. Dans un monde qui se fragmente, l'Église ne sert pas la vérité en se retranchant, mais en incarnant la possibilité même d'une fidélité ouverte, d'une fidélité qui, à l'image du Christ, ne cesse de se donner sans se perdre. Je te remercie.
Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bon, vous êtes livré à un exercice périlleux, hein, Brigitte et Julia. On peut vraiment vous être reconnaissant d'avoir pu réagir ainsi. Alors évidemment, il reste juste un petit quart d'heure. Je suppose que ce serait frustrant pour Marc de ne pas dire un petit mot par rapport à ce qu'il a entendu. En même temps, je suppose qu'il y a peut-être une autre question de la salle. Bon, donc quel autre procédé ?
Je viens de le dire à mes voisines, c'était super.
Voilà. Donc, je ne sais pas si, est-ce que...
C'est impossible, évidemment, d'entrer en débat sur chaque point. C'est extrêmement riche ce que vous avez apporté. Et vous avez prolongé, en fait, des éléments épars à la fois des textes de Lindbeck et de mon exposé. Mais vous avez remarqué quand même que dans ma conclusion, et là, je dois m'excuser auprès de vous parce qu'il vous manquait le dernier paragraphe avec la précision et le correctif. Voilà. Mais il y a bien des critiques que vous faites à Lindbeck que je lui fais aussi au fond. Mais en même temps, il y a des ressources, me semble-t-il, en tout cas ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il y a des ressources dans le parcours qu'il a fait. Et alors je dois dire aussi, j'ai pris Lindbeck que par son ecclésiologie et sa missiologie. Or, c'est pas son point fort, au fond. Son point fort, c'est vraiment l'épistémologie des croyances, c'est l'herméneutique. Son apport est considérable dans ce domaine. Donc, je me permets de faire la publicité pour une revue protestante que tout le monde connaît. Contact, la revue française de l'orthodoxie, où Michel Stavro m'a demandé un texte sur Lindbeck, cet autre aspect de Lindbeck qui répond, et on peut pas en discuter ce soir au fond, mais il répond à beaucoup de questions qui sont un peu en filigrane derrière une ecclésiologie et une missiologie qui présentent des carences si on les lit pas à la lumière de sa, quand même, de sa théorie des doctrines qui est son maître ouvrage et voilà. Mais encore une fois, merci beaucoup d'avoir lu ça si attentivement et d'en avoir ressorti tellement de richesses. J'ai eu l'impression, en vous écoutant, qu'il y avait vraiment place pour une lecture catholique et une lecture orthodoxe de Lindbeck. Peut-être, s'il fallait discuter d'un point spécifique qui est un peu à l'intersection de ce que vous avez dit toutes les deux, c'est la question de la normativité. J'ai noté la notion très jolie de catholicité polyphonique. Mais je crois... Bon, Lindbeck est quelqu'un qui vient de la tradition analytique. Pas de la psychanalyse, hein, de la philosophie analytique. Bon. Il se définit lui-même, ce qui est quand même assez étonnant pour un luthérien, comme un thomiste wittgensteinien. C'est-à-dire comme Hans Kamb, comme Foote, vous voyez, bon, c'est un pedigree un peu compliqué, il faut dire. Après, oui, mais il est médiéviste, c'est des médiévistes, il y a beaucoup de médiévistes chez ces gens-là. Bon, et donc, il a une approche vraiment qui, au départ, est celle de la philosophie analytique. Il a eu Richard Rorty parmi ses élèves à Yale dans les années 50. Vous voyez, ça pose un peu le personnage, hein. Et au fond, la question, il vient ni de l'orthodoxie ni du catholicisme, même s'il a beaucoup d'affinités avec le catholicisme, par sa biographie, enfin, le fait d'avoir été en dialogue constant avec l'Église catholique, mais clairement, il s'adresse, enfin, comment dire, ces lieux polémiques sont avec sa propre tradition protestante. S'il règle des comptes, comme on le fait tous par moment, c'est avec certains éléments du protestantisme. Et c'est notamment avec un libéralisme qu'il qualifie d'expressif expérientiel, qui, sur la question justement de la normativité, est tellement vaporeux qu'il n'a rien à dire, par exemple, sur la question de Nicée, ou sur des... Bon. Et donc, il propose quand même, plus dans la veine de la tradition de la philosophie analytique, une forme de normativité à laquelle... qui soit dans le langage. Qui soit pas hors langage, mais qui soit dans le langage. C'est-à-dire qu'on ait les moyens de dire oui et non, c'est juste, c'est faux, et voilà pour quelle raison, et voilà comment j'argumente. Et finalement, il me semble que, il me semble que dans la discussion œcuménique, en tout cas sur les points les plus sensibles, qui sont aujourd'hui les questions morales, précisément les questions d'identité, les questions de sociétales, sur ces questions-là, la catholicité polyphonique, il y a un moment, il faut pouvoir dire c'est oui, c'est non, c'est dedans, c'est dehors, on est pour, on est contre. Et je crois que c'est l'apport de Lindbeck. Oh, pardon, j'ai été trop long maintenant. Alors voilà. Mais ce serait ma réponse sur cette question-là. Voilà.
Merci beaucoup. Bon, dans les 8 minutes en gros qui restent avant qu'on conclue cette séance, peut-être qu'il y aurait 2-3 questions ou réactions après ce que nous avons entendu.
Il y a un micro qui circule.
Oui. Donc, c'est Pantelis Kalizadis qui interviendra demain après-midi.
Oui, merci beaucoup de cet exposé très très riche et stimulant qui touche plusieurs questions qu'on va discuter demain, je pense. Je levais ma main parce que je m'attendais à que d'autres intervenants prennent la parole, mais comme je vis que personne n'a pas voulu commencer, donc je vais commencer par de très très simples remarques. Tout d'abord, l'ouverture œcuménique de Lindbergh, comme ça a été souligné pour le catholicisme, par exemple, le livre qu'il avait écrit sur l'infaillibilité, sur l'avenir de la théologie catholique. Mais c'est ce qui m'avait étonné avec lui, c'était son étude sur la prière efficace et la christianisation du platonisme, qui a été repris dans son livre sur la théologie post-libérale.
Paris. Vous êtes un bon connaisseur.
Non, il ne faut pas exagérer. J'ai une certaine idée. D'autre part, je trouve très intéressant ces remarques à propos de ce débat sur les guerres culturelles qui touchent maintenant aussi l'orthodoxie. Bon, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pantelis Kalizadis, je suis théologien orthodoxe. Donc, les guerres mondiales, l'orthodoxie était jusqu'à une date très récente assez préservée de ces guerres mondiales. Maintenant, ça y est. On est là, les guerres culturelles ont gravement touché l'orthodoxie. D'un côté, à cause des convertis protestants venus à l'orthodoxie, surtout aux États-Unis, qui portent avec eux le débat évangélique, etc., etc. Il y a une bonne partie de l'orthodoxie américaine aujourd'hui qui se définissent comme, vous voyez, presque évangélique. De l'autre côté, il y a une alliance transatlantique, transnationale, à propos de valeurs familiales, etc., etc., où la droite américaine a trouvé un allié averti en la personne de Poutine et de l'orthodoxie russe. Donc, la guerre mondiale touche l'orthodoxie. Et là, je pense que le cas de Lindbergh aurait à nous enseigner pas mal de choses. Et je voudrais vous demander une... Je vais juste m'arrêter à un point de votre exposé à propos de Harvey Cox, de Peter Berger, etc., etc. Lorsque Harvey Cox publie son livre, c'est le 1965. Peter Berger, c'est 1967-8. Mais après, Peter Berger, 10 ans plus tard, il revient et il parle plus d'un monde sécularisé, mais il parle de la désécularisation. Et puis après, on a Casanova, on a d'autres sociologues qui parlent de la du retour du religieux. Alors, je me demande, lorsque Lindbergh développe sa pensée, s'il tient compte de ce retour du religieux ou s'il reste à la théorie sociologique classique de la sécularisation. Voilà, ça c'est ma question. Merci.
Merci beaucoup.
Oui, on peut répondre rapidement. Oui, il en tient compte, mais pas centralement. Il a consacré toutes les dernières... Parce que, vous savez, Lindbergh est connu, comme beaucoup de ses collègues de l'école de Yale, pour avoir publié très peu de monographies. Beaucoup d'articles, mais très peu de monographies. Ses livres sont pour l'essentiel des collectifs de travaux écuméniques, en fait. Et en fait, ce qui l'a passionné, j'ai eu le plaisir de le rencontrer pour son 80e anniversaire. On avait organisé un colloque à Lausanne avec quelques collègues de Lausanne et de Fribourg. C'était amusant parce qu'on mangeait avec lui le soir et il y avait des étudiants, on posait plein de questions. Qu'est-ce qu'il pensait de Milbank, par exemple? Puis il nous disait, il avait très bien lu. Mais bah, il disait, vous savez, je lis Augustin maintenant. Il était un peu fatigué par ces questions de l'actualité de la recherche théologique. Donc j'étais frappé en parlant avec lui de voir qu'il allait à la fois qu'il suivait quand même d'assez près. Il y avait un peu une coquetterie de sa part, hein, à dire oh, laissez-moi avec Augustin, je suis bien, je suis à la retraite. Il y avait un peu une coquetterie, mais je pense qu'il y avait aussi quelque chose de sérieux. De pas vouloir rester dans l'écume de la recherche, de l'actualité, de la publication, etc. Et il est pas tellement revenu sur ce sujet par la suite. Sa grande préoccupation vers la fin de sa vie, c'était ce qu'il appelait une israélologie. Il n'est pas arrivé au bout de ce projet, mais il voulait écrire une ecclésiologie comme israélologie. Alors dans le contexte actuel, ça paraît un peu, enfin, faut oublier un peu le contexte actuel. Mais Lindbeck est quelqu'un qui a essayé de donner une nouvelle pertinence, une nouvelle vigueur à des modes de lecture classiques. Qui précèdent la critique historique et notamment la typologie. Ça l'intéressait beaucoup plus que la question de la sécularisation. Mais il faut dire que le premier texte dont j'ai parlé, il est de 1968 et il s'appuie beaucoup sur Harvey Cox et Berger, effectivement. Et les deuxièmes, 89, il est encore question de sécularisation. Mais si vous avez remarqué, il est beaucoup moins question de société que de démocratie libérale. Hein. Et c'est peut-être un reproche qu'on peut lui faire, c'est de glisser trop facilement de la notion sociologique de société sécularisée à la notion proprement politique de démocratie libérale. C'est pas la même chose. Bon, mais il a suivi aussi, il connaissait le texte de Stout sur Ethics After Babel. Donc voilà, mais... Je sais pas comment vous... Je veux pas me faire le porte-parole de Lindbeck, si vous voulez. Il connaissait ces débats, mais il s'en est un peu désintéressé.
Alors, on est presque au terme de la séance. S'il y avait une toute dernière question pour la prendre, sinon on va bientôt conclure. Voilà, je pense qu'il est... Alors, je vais rendre la parole à Anne-Cathy, mais non sans remercier à nouveau chaleureusement... Marc, pour sa belle conférence.
Et vous ? Oui, je crois qu'on a eu beaucoup de chance, non seulement de t'entendre, Marc, mais aussi d'avoir sous nos yeux, nos oreilles, un débat qui s'instaure entre vous trois. C'était très beau, cette manière de recevoir ce que dit l'autre. Merci beaucoup de nous avoir offert cela ce soir. Alors, avant de vous parler demain, très très brièvement, j'aimerais vous annoncer un cours qui aura lieu, et je trouve j'ai bien aimé en écoutant aussi Julia, j'y ai pensé, c'est à propos des icônes du Christ, plus qu'une œuvre d'art, l'icône est une théophanie, une manifestation de la présence divine. Et apprendre à entrer dans un autre type de théologie, une théologie visuelle, c'est ce que ce cours vous propose avec Cyril Sologoub, donc un orthodoxe qui est bien connu ici. Donc je voudrais vraiment vous inviter à ce cours qui aura lieu dans un petit mois. À partir du 18 novembre, il y aura 5 séances de 2 heures le mardi après-midi. Donc voilà, c'est une autre manière de faire de la théologie et ça rejoint bien des propos, je pense, de Julia. Et voilà, donc avec Cyril Sologoub. Donc j'en profite aussi pour vous dire que vous allez recevoir à nouveau le flyer du programme de la chaire de théologie œcuménique qui est co-animé par Michel Fédou et moi. Et donc vous trouverez ces cours dont il est question à l'intérieur. Et puis bien sûr, eh bien, nous vous invitons encore une fois à demain. Demain nous commençons à 9h jusqu'à 18h pour continuer cette question des identités. L'enjeu des identités, il y aura un regard sociologique, regard œcuménique, des regards ecclésiologiques, historiques aussi, bref, exégétiques. Voilà, donc nous, une table ronde également, où là on aura une table ronde assez longue, où vous aurez en face de vous 5 ou 6 personnes de traditions très diverses. Voilà, donc nous vous invitons vraiment très chaleureusement.
dès demain matin à 9h. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Ceux qui sont en ligne, celles et ceux qui sont en ligne, celles et ceux qui sont en présentiel. Merci pour votre présence et merci aussi finalement de nous avoir aidé à fêter cette fin de travail, de cette année de travail, de ce séminaire de recherche. Donc bonne soirée à chacun d'entre vous et puis peut-être à bientôt, nous l'espérons. Au revoir.